La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info, l'émission débat que vous propose Radio Présence chaque semaine sur les sujets à la une de l'actualité nationale. Voici les invités de ce numéro. Je salue Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du Rassemblement démocratique et social européen. Je salue Gisèle Vergniol, membre du parti Les Écologistes. Et je salue enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole. Bienvenue aussi à vous trois et merci d'avoir répondu à mon invitation. Un petit événement a eu lieu en fin de semaine dernière à l'Assemblée nationale puisque pour la première fois, certes à une voix près, mais c'est symbolique d'une certaine manière, un texte proposé par le Rassemblement national a été approuvé par les députés. C'est une proposition de résolution non contraignante dénonçant l'accord franco-algérien de 1968 qui attribue aux citoyens algériens des avantages spécifiques en termes de circulation, d'emploi et de séjour dans notre pays. Le vote a eu lieu dans le cadre de la niche parlementaire du RN et Marine Le Pen s'est évidemment félicitée de ce résultat qu'elle a qualifié d'historique, obtenu grâce aux voix des députés RN et UDR bien sûr, mais aussi grâce à ceux d'élus des partis LR et Horizon. Alors, il y a deux questions qui se posent après ce petit événement. Est-ce que vous pensez qu'il est temps, en effet, au minimum, de réviser l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas vraiment au beau fixe en ce moment, comme vous le savez? Et voyez-vous d'autre part un tournant dans le résultat de ce vote qui pourrait avoir des conséquences lors des élections à venir, au sens où des élus LR et Horizon ont assumé de joindre leur voix à ceux du RN pour soutenir une proposition émanant de ce parti? Je pose d'abord la question à Françoise Laborde.
Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, qui en fait, il y a plusieurs questions. Bon, il y a le fond et la forme. Alors, je dirais qu'heureusement, c'était une résolution, puisqu'en effet, une résolution, ça ne fait pas la navette, donc ça n'ira pas au Sénat et ça ne deviendra jamais une loi. Donc, ouf. Mais en revanche, c'est vrai qu'on voit, donc, si je mélange les deux parties de la question, qu'il y a eu une union des droites, et on peut même aller plus loin, puisque certains reprochent aux macronistes d'avoir été absents de l'hémicycle, dont Gabriel Attal, mais lui, ayant proposé cela déjà, une renégociation il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, je n'ai pas les dates exactes, il ne pouvait pas voter contre. Et comme il ne voulait pas voter avec le RN, il n'était pas là. Donc, il n'était pas le seul. Donc, tout ça, c'est quand même la tambouille politique. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de pouvoir. Et donc, bien sûr, on compte les présents. Donc, ça, c'est quand même important. Sur le contenu, donc sur le fond, je crois qu'en effet, cette...
proposition.
Ces accords de 1968... Oui. commencent peut-être à faire date, et ils ont d'ailleurs été revus 3 fois, donc oui. Je ne connais pas les dates exactes.
85, 94 et 2001, voilà. Si je ne me trompe pas.
Donc ce ne serait pas aberrant qu'il y ait une renégociation. On sait très bien pourquoi il y a eu ces accords. C'était une immigration de travail.
Oui.
Aujourd'hui, c'est une immigration, allez, familiale, on va dire, hein, de... immigration, voilà, donc ça ne se règle pas d'un coup de baguette magique. Le sujet n'est pas aberrant. La grande victoire de Marine Le Pen, ça c'est sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais est-ce que c'est une grande victoire? Bah oui, ça laisse un petit peu voir que des membres d'Horizon, que des membres... Enfin, ils veulent faire une droite, l'union des droites, pour éventuellement avancer des pions pour les présidentielles. Les uns et les autres savent bien que tout seul, ils feront rien. Donc, Marine Le Pen, elle se dit « Je suis chef d'orchestre et allons-y ». On n'est pas encore arrivé à demain. Hein.
Non.
Voilà.
Voilà, donc première réaction et première analyse hein, de Françoise Laborde par rapport donc, aux deux questions que je posais. Et donc, ce petit événement à l'Assemblée nationale avec le RN qui, pour la première fois, arrive à faire passer une de ses propositions. Vous, Gisèle Berniol, comment vous avez reçu ça? Comment vous l'avez vécu, peut-être aussi, vous, femme de gauche?
Alors, femme de gauche, pas du tout étonnée. Et une victoire, plutôt une opportunité de la niche, je dirais. Parce que, depuis quelques années, cette petite musique de, alors quelquefois, renégociation, le plus souvent, hein, dans la bouche de nos premiers ministres.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, évidemment.
Elisabeth Borne parlait de renégociation. Édouard Philippe, par contre, lui, voulait évidemment refaire une négociation. Remettre tout à plat et même ne plus avoir d'accord. Donc, quelque part, il y avait déjà la soupe qui mijotait, hein, je vais le dire ainsi, de façon triviale. Et ça s'est trouvé ainsi. Il m'a semblé lire dans Le Monde que, de toute façon, ils avaient modifié leur proposition au dernier moment, ce qui explique aussi qu'il y a eu beaucoup d'absentéisme dans l'Assemblée à ce jour-là, qui explique aussi ce vote de 185 à 184. Des absents, donc le Parti Renaissance évidemment, mais le Parti Renaissance, il ne faut pas oublier que Gabriel Attal lui-même avait parlé de renégociation.
Et voilà, c'est ce que j'ai dit.
Donc, qui prouve que les planètes s'alignent un peu et que, bon, ben, avec l'esprit un peu opportuniste du RN que nous connaissons, ils ont passé, ils ont gagné.
Oui, alors, sauf quand même, il faut préciser, quand ils disent la proposition, c'est dénoncer l'accord, ça veut dire le supprimer unilatéralement. Voilà. Là, il n'y a pas de renégociation de certaines clauses.
Et là, je suis...
Il était abrogé.
Je ne suis pas une spécialiste, mais je lis un peu. Et il me semble qu'on ne peut pas dénoncer un accord unilatéralement, quand c'est un accord bilatéral. Je pense que c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Et j'ai lu des choses qui disaient qu'en fait, ça n'était pas possible parce que ce n'était pas noté dans le traité de 68. Donc, de ce fait, il faudrait en revenir à ceux qui chapeautent, si je peux le dire ainsi, les traités internationaux. Et là encore, ça ne serait pas possible. Donc, on est plutôt sur de la renégociation, à voir avec des spécialistes et la nécessité de renégocier. Et après...
Selon vous, il faut renégocier ou pas?
Peut-être pas, mais après, nous sommes... Je ne sais pas, mais toujours est-il que nous sommes quand même toujours dans la même musique du RN, avec aussi le fondement de ce qu'a été le Front National, c'est-à-dire la filiation, quelque part. Et c'est toujours montré du doigt, et cette espèce d'histoire douloureuse qu'il y a entre le peuple français et le peuple algérien et le peuple français, on est quand même là-dessus en sous-titre. Et c'est ce qui est un peu gênant, de voir que, quelquefois, des partis de droite républicaine, que je respecte beaucoup, même si je suis une femme de gauche, sont allés, parce que c'était leur conviction de renégociation, donner du grain à moudre à ce parti, qui est quand même un parti xénophobe et raciste.
Alors donc, selon vous, même si on peut être d'accord, ne serait-ce que partiellement, avec une proposition du RN, parce que c'est un sujet qui, selon tout le monde, doit être traité, dans la mesure où c'est le RN qui le présente, il ne faut pas voter pour la proposition?
Ah, moi, si j'étais députée, j'aurais fait cela, tout à fait.
Ce serait votre choix.
Mais vous vous en doutez quand même un peu.
Bruno Cyr.
Alors moi, je ne suis pas dans un parti politique. Et j'ai de moins en moins envie d'y être quand je vois tout ce qui se passe. Et pour moi, cette histoire est l'illustration du fossé qui se creuse de jour en jour entre les Français et le grenouillage politique dont on vient d'avoir malheureusement une démonstration encore là, de gens qui sont affiliés à des partis et qui ne raisonnent qu'en petite politique politicienne. Moi, je veux faire deux remarques au sujet de cet événement. La première remarque est une remarque de forme, effectivement. Une majorité de Français, 72%, sont pour qu'on renégocie l'accord. Et donc, je ne vois pas en quoi il est scandaleux que le Parlement disent qu'au fond, ils sont d'accord pour renégocier l'accord. Je suis désolé, mais quand vous avez une majorité de Français qui exprime une conviction avec quand même les filtres qu'ils ont pour faire ça, c'est-à-dire qu'on est, dans un pays où les gens vivent, voient autour d'eux ce qui se passe, comprennent un certain nombre de choses, entendent, lorsqu'ils écoutent la radio ou la télévision et lorsqu'ils lisent les journaux, lisent un certain nombre de choses, donc sont capables d'avoir des convictions. Et je trouve qu'il y a une grande forme de mépris en disant « Ah mais moi, si c'est un tel qui le propose, alors je ne voterai jamais. Si c'est un autre qui le propose, alors c'est bien. » Mais si on parlait plutôt des Français, au lieu de parler des politicards, de cette politicaille qui consiste à dire que si vous êtes le diable, si vous êtes affilié à un parti qui n'existe plus, qui est le Front National, qui a été dissous il y a je ne sais pas combien d'années, mais on le ressort toujours, etc. Donc je trouve que tout ça, c'est dommageable et ça éloigne les Français de la politique. Et les hommes et les femmes politiques devraient plutôt s'interroger. Pourquoi est-ce que les gens s'éloignent de nous? C'est parce qu'on ne sait pas répondre à leurs attentes. Et là, je suis sûr qu'une majorité de Français sont d'accord avec ce vote, peu importe qui l'a proposé, mais c'est leur conviction. Alors, essayez de diaboliser, de dire aux gens comment vous pouvez voter avec un tel. C'est l'histoire du Front républicain. Si vous voulez, le Front républicain était une grande tromperie, hein, parce qu'il n'y a pas de Front républicain. Il y a des partis politiques qui font des propositions, qui ont des programmes. Et ensuite, les gens, en leur âme et conscience, ils votent pour tel ou tel parti. Et à certains moments, ils peuvent être d'accord avec un parti. À d'autres moments, d'accord avec un autre parti. Et je trouve qu'il faut avoir l'humilité de dire que la vérité n'est pas ici, et où là, elle est un peu partout, et de temps en temps, les gens sont capables, avec leur libre arbitre, de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça nous convient, ça nous convient pas. Donc moi, je reviens sur cette histoire. Pour moi, c'est pas une victoire du Front National, c'est simplement que ça correspond à une attente d'une grande majorité de Français qui ne comprennent pas pourquoi en 2025 on a encore depuis 68, c'est quand même vieux, 62 même, parce qu'en fait il faut remonter à 62, l'Algérie n'est plus un département français. Il faut quand même dire que quand l'Algérie est un département français, la France a fait énormément de choses pour l'Algérie. C'est trop facile pour les Algériens de dire maintenant qu'on les a pillés, etc. C'est pas vrai, la France a apporté beaucoup de choses, comme elle en apporte à tous ses départements. La page est tournée depuis 60 ans. Il faut quand même maintenant peut-être dire que l'Algérie est devenue un pays comme les autres pour la France. Bon, donc ça, c'est un point de vue qui correspond à une majorité de gens. Je suis désolé, moi, de voir ces débats politiques sans fin à l'Assemblée nationale. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on dénonce un accord, on peut dénoncer un accord, mais le problème, c'est quand on le dénonce de façon unilatérale, ce qui est possible, en disant « je ne l'applique plus », parce qu'on est quand même des États souverains, dans ce cas-là, on revient à l'accord précédent. C'est ça la vérité. Et l'accord précédent, c'est les accords d'Évian. Et le problème, c'est que les accords d'Évian qui datent de 62 et qui ont été des accords assez douloureux, assez difficiles à appliquer et sur lesquels le FLN et les Algériens ont été très coquins, parce qu'en fait, ils ont négocié en sous-main, sans le dire, un autre accord qui était les accords je ne me rappelle plus, j'avais noté ça, mais de Tripoli. Il y avait un autre accord qui était négocié, donc c'est un accord qui a été mal né, l'accord d'Évian, et je pense que ça serait une erreur de revenir à l'accord d'Évian. Donc oui, on ne peut pas éradiquer ce que demande le FN. Serait possible, on peut très bien unilatéralement dire « je n'applique plus » et si vous n'êtes pas content, faites-moi la guerre. Mais on est quand même des États souverains. Mais dans ce cas-là, il faudrait revenir sur le plan du droit international à un mauvais accord qui est l'accord d'Évian et ce n'est peut-être pas une bonne solution. Donc c'est sûr que c'est un problème à regarder de près. Je crois que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de renégocier avec l'Algérie qui visiblement... Notamment, mais que notamment, parce que ça date en fait depuis 1962, le FLN n'a jamais complètement dételé de sa détestation de la France. Ils ont été se jeter dans les bras des Russes. Ils ont déchanté, mais ça ne les a pas empêchés de revenir et de continuer à critiquer la France depuis toujours. Et là, aujourd'hui, on n'est pas en position de négocier avec eux. Donc il faudra bien traiter le problème. On voit bien qu'on a un mal fou avec l'intégration des gens originaires d'Algérie. C'est une réalité que les gens vivent au quotidien. On en a tous à côté de nous. Donc, et moi qui m'occupe d'une association qui s'occupe d'intégration, je peux vous le confirmer avec des exemples précis. C'est une réalité. Il y a une difficulté, il faut la traiter. Il faut arrêter de dire c'est un tel, donc c'est pas bien, c'est lui, donc c'est alors, bien. Je trouve ça ridicule.
Beaucoup de choses ont été dites là par Bruno Cyr. Et je pense que Françoise Laborde veut sans doute réagir à plusieurs d'entre elles.
Oui.
Juste une chose, est-ce que vous, comme Gisèle Vergnol, par principe, vous n'auriez pas voté une proposition du RN, même si vous étiez à peu près d'accord sur le fond.
J'aurais été très embêtée. Je pense que je me serais abstenue.
Merci de votre franchise.
Oui, oui. Alors, ça, j'avoue que j'aurais été très, très embêtée. Ouais. Parce que, mais il faut le dire, et j'allais rebondir là-dessus, parce qu'on dit que c'est une petite victoire du RN, même si 72% des Français pensent ça, c'est quand même, et là, bon, il sait bien quand je dis ça à Eric, c'est pas pour contre lui. Mais les médias, tous les matins, tous les soirs, CNews, machin, nous en bassinent. Vive.
Attendez, les médias, France Inter, Radio France, La 2, Le Monde, etc. C'est tout l'inverse. Donc,
voilà.
Vous parlez des sujets abordés.
Non, mais je parle des sujets abordés.
Pas forcément la façon dont ils sont traités.
Et la façon dont ils sont traités, c'est ça y est, elle a gagné.
Mais les gens ne sont pas idiots.
Alors qu'elle n'a pas gagné. Et puis on n'y est pas encore. Quoi. Là où je suis d'accord, mais on en parlera peut-être dans le sujet suivant, mais ça ne fait rien parce que je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est sur le Front républicain. Moi, je suis convaincue qu'en effet, il n'y a plus de Front républicain. Parce que ça fait quand même des années qu'on dit aux gens, il ne faut pas avoir Mélenchon, donc votez ça. Voilà. Il ne faut pas avoir le RN, donc votez ça. Maintenant, la tambouille. Le français, il dit, je suis capable de réfléchir tout seul.
Et je vais voter ce que j'ai envie de voter.
Et je voterai ce que je voudrais.
Et pour qui j'ai envie de voter.
Voilà. Exactement. Donc là, là-dessus, je vous rejoins. Parce que, à un moment, alors c'est à nous, politiques, de proposer des choses qui contrecarrent, voilà. Mais c'est pas, surtout, ne pas avoir de programme, ne pas avoir de proposition et dire, mais surtout, votez pas pour eux. C'est fini.
C'est vrai que maintenant, on en était un peu arrivé là.
Ah bah oui, on en était un peu arrivé là.
On sait que vous n'avez pas
même
voté,
aux dernières
voté
législatives,
pour vous, mais ne votez surtout pas pour eux.
Même aux dernières législatives, ça a été...
C'est sûr que voter contre le RN, ça ne fait pas un programme, évidemment.
Voilà.
Il va falloir que tout le monde
donc
le comprenne.
Donc je pense qu'en effet, s'il n'y a pas de programme, le français moyen est quand même... pas aussi bête qu'on voudrait le faire croire. Voilà.
Exactement. Ça, je vous remercie de le dire. Je me considère comme un Français moyen.
Non, mais en plus, la babouche, c'est pas péjoratif.
Vous pensez, c'est effectivement une question que j'allais poser, hein, qu'aujourd'hui, il y a une vraie brèche dans ce qu'on appelait le dit front républicain, le barrage républicain, se constitue à chaque fois au second tour des élections contre le RN ou contre Marine Le Pen. Vous, Gisèle Vergnol, aussi, alors je vais vous poser la question autrement. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes très inquiète par rapport à ça?
Par rapport à cette montée du
Rassemblement national. Non, par rapport au fait que là, il y a des élus LR, Horizon, qui ont accepté de voter une proposition du RN, donc de voter avec les députés du RN. Jusqu'alors, ça n'était jamais arrivé. Ça n'était pas arrivé non plus à des élections de façon très marginale. Est-ce que vous pensez que maintenant, le barrage républicain, ça ne va plus fonctionner comme avant?
On s'était un peu éloigné des accords de 1968
Parce que j'ai rebondi sur ce qu'avait dit Bruno
Le Front républicain, dont je ne sais plus où j'habitais. Donc moi, je veux revenir un peu quand même sur ce vote de la semaine passée. C'est la deuxième fois que le RN propose dans sa niche parlementaire un vote. Et il avait été rejeté en 2023. Donc, ceci pour un peu répondre aussi à votre question et pour ne pas m'éloigner de votre question, à savoir qu'il y a des moments, à des votes, un peu de circonstances, nous allons dire ainsi. D'autant plus que la circonstance, je le rappelle, ce jour-là, cette proposition de loi, enfin, ou d'adresse au président, puisque ça ne dépend absolument pas des députés, de l'Assemblée nationale, ils l'ont modifié, et je pense que bon nombre de députés absents n'étaient pas là pour contrebalancer ce vote, et il n'y aurait pas eu cette victoire.
Il manquait plus de 200
députés. Et les 72% de Français, qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est ça, moi, mon problème, c'est que vous ne parlez jamais des Français.
Je vais dire une chose.
Les députés sont élus par des Français.
Je voulais commencer avant la question d'Éric Dupré. Je voulais vous... Une petite boutade entre nous. Si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser à vous. Et c'est vrai que toujours aussi parler de ce que... Moi, je suis souvent agacée, dans les médias aussi, en disant « les Français veulent ». Ben, comment ils savent ce que les Français veulent? Moi, je ne le sais pas beaucoup. Je sais ce que pensent mes amis, ce qu'ils veulent, mon cercle.
Mais il y a les sondages d'opinion, c'est fiable.
Les sondages d'opinion, on sait bien aussi.
Non, mais alors là, quand ils vous arrangent, vous les prenez. Quand ils ne vous arrangent pas, vous ne les prenez pas.
Ça, vous ne le savez pas. Quand ils m'arrangent, je les prends, parce que je suis toujours très, très... avec un regard très critique par rapport aux sondages, et je les ai à tout moment, même quand, quelque part, ils me rassurent. Et donc, je pense que, de toute façon... ce qui s'est passé, c'est un petit phénomène qui ne, en rien, nous indique ce qui pourrait se passer s'il y avait une dissolution, parce que ça, c'est plus proche de nous.
Absolument.
Soit en 2027.
Et il y aura les municipales, de toute façon.
Et il y aura les municipales aussi.
Ça va être un test grand
qui vont donner. Alors là, vous parlez à une personne convaincue.
Et là, on sort à ce que les Français veulent.
Voilà. Parce que les Français, bon, c'est comme, je trouve que c'est un peu facile, quelquefois, de dire les Français pensent cela. Mais bon, il y a les sondages, monsieur.
Moi,
monsieur,
je ne vous ai pas dit les Français. Je vous ai dit 72% des Français. C'est un sondage IFOP bien fait avec des panels, etc. Je ne vous parle pas les Français veulent.
Oui,
je vous parle de résultats de sondage. C'est différent.
Nous sommes tous... Je vais continuer. Nous sommes de toute façon aussi, et je le rappelais, il y a les sous-titres dans ce vote aussi. Et il y a les sous-titres où on désigne toujours l'autre comme étant responsable de tous les maux. Et c'est pour cela que
vous
moi...
Vous ne le faites pas avec le FN, vous ?
C'est pour cela que...
Avec le Rassemblement National, non ?
C'est pour cela que, monsieur Cyr... C'est pour cela que je pense que je n'aurais absolument pas voté avec le RN. Parce que ça, c'est la petite musique qui est toujours chantée par le RN. L'autre, celui qui est le responsable de tous les maux. Et je ne dis pas la même chose pour des démocrates de droite. Parce que eux, je pense que sincèrement, ils ont envie de renégocier, mais pas de dénoncer. Parce que c'est exactement ce que disait la première ministre, Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Donc il faut être mesuré et par rapport à toutes ces nuances.
C'est ce que dit Sébastien Lecornu.
Et toutes ces nuances-là, c'est peut-être présomptueux de ma part, mais je pense quand même que les Français, quand on les a sondés, c'est la bergère au berger, monsieur Cyr. Je pense que là, les Français, on ne leur a pas donné toutes les subtilités. Parce qu'un sondage, on sait comment ça se fait, c'est oui, non, plutôt. Et c'est très intéressant, et le sujet du débat ce soir, parce qu'il est très complexe, en fait.
Il y a beaucoup d'entrées.
Il est complexe. Et je crois que la seule chose qui est certaine pour moi, je ne vous oblige pas à le partager, c'est qu'en fait, c'est quand même toujours la même histoire. Les Algériens, l'autre, les immigrés sont responsables de tous les maux en France. Et on va s'en débarrasser. C'est quand même ça qui est en sous-tension.
Personne n'a dit ça.
Non, mais je pense que je dis en sous-titre ou en sous-tension. Bien sûr que ça n'a pas été dit.
Vous faites dire des choses qui ne sont pas dites. Qui a dit ça? Moi, je n'ai jamais entendu personne dire...
L'URN qui dit que les immigrés sont responsables de tout, qu'ils sont
voleurs. Ce n'est pas l'URN. Un grand nombre de Français, et pas uniquement au Rassemblement National, disent « on a un problème avec l'immigration non contrôlée ». Vous pouvez toujours m'expliquer que ce n'est pas vrai, mais je crois que quand même,
la proposition de renégociation peut s'accompagner d'une véritable discussion.
Pour renégocier, il faut être deux. Les Algériens ne veulent pas négocier, vous le savez très bien.
Allez, je prends le conditionnel. Pourrait s'accompagner d'un travail bilatéral France-Algérie sur l'immigration clandestine. Mais on est d'accord, peut-être.
Mais ils ne veulent pas négocier, mais c'est ça le problème.
Moi, je ne sais pas, monsieur. Je sais pas.
Effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'ils veulent en négocier? Et Sébastien Lecornu dit, lui, qu'il veut négocier certaines parties des accords de 1968. Il faut savoir ce qu'il y a dedans, parce que, par exemple, ça permet aux ressortissants algériens d'obtenir un titre de séjour de 10 ans selon une procédure accélérée, et donc c'est un cas particulier, ce n'est pas le cas de tous les immigrants pour les autres pays, et dans le cadre d'un regroupement familial, même les membres de la famille reçoivent également un certificat de résidence de 10 ans dès leur arrivée, si la personne qu'ils rejoignent possède elle-même ce titre. Et c'est ce que Sébastien Lecornu a l'air de vouloir renégocier. Maintenant, est-ce qu'on est dans une position permettant de le faire? Bruno Cyr dit que non.
Bah, la preuve, c'est que Macron a été deux ou trois fois voir M. Tebboune et ça n'a donné rien du tout.
Oui,
mais
je rappelle que nous avons deux otages là-bas. On va le rappeler encore une fois, Boualem Sansal et Christophe Glaize. Et qu'évidemment, ça va peser dans la négociation, la renégociation en question.
Le problème, c'est le statut dérogatoire au droit commun des étrangers non européens. Ce qu'on accorde aux Algériens.
Je pense que Gisèle Vergniaud serait d'accord pour dire qu'il faut que tout le monde soit traité de la même façon. Pourquoi les Algériens ne le seraient pas?
On y va de plus en plus. C'est par rapport au code d'entrée.
Sauf que l'accord ne le permet pas.
Parce que c'est ce qui prévaut.
C'est ce qui prévaut. Et c'est ça qui fait un peu mousser. Parce que je crois qu'en effet, 62, 68, on a maintenant des gens de deuxième, troisième génération. Donc on doit pouvoir se dire qu'ils sont comme des Marocains, comme n'importe qui. Je dis Marocains parce qu'on en parlait tout à l'heure. Comme n'importe qui. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai souci. Mais là où vous avez raison tous les deux, c'est-à-dire que c'est très difficile de renégocier quelque chose qu'on ne veut pas mettre à plat, parce que des petits bouts, sauf que annuler, abroger complètement, Bruno Cyr a raison, on se retrouve à l'antéchrist, parce que c'est comme ça la loi internationale, enfin les textes internationaux.
Oui, c'est l'accord précédent.
Et alors l'accord précédent, moi je vais vous dire un truc qui n'a rien à voir, c'est que lorsque moi j'ai remis en cause X fois les statuts de l'école privée, vous savez, n'est-ce pas, je suis quand même plutôt école publique, on m'a dit, mais attention, parce qu'on remonte, là aussi, à l'antéchrist. Oui. Alors, c'est pas facile, il faut connaître vraiment tout ce qu'il y a avant, ce qui n'est pas toujours le cas quand on arrive la bouche en cœur dans l'hémicycle, même si on a potassé son truc, Et là, donc moi, je pense qu'il y a un coup d'épée dans l'eau. Chacun en tirera le succès qu'il veut, mais j'espère vraiment que ça va entraîner une réelle négociation où on n'aura quand même pas, parce qu'on n'est pas en Israël, en Palestine, etc., les otages contre l'arrêt de la guerre. Donc là, il nous faut nous rendre nos otages, comme ceux qui sont...
que c'est la base.
C'est la base, c'est comme en Iran, où là on vient d'avoir des otages libérés, ils ne sont pas encore sur notre territoire. Bon. Et c'est ça le souci, c'est qu'on est toujours à marcher sur des œufs. Donc on fait de la politique, on fait de la diplomatie, on ouvre sa bouche parce qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. Et demain, je ne sais pas ce que ça fera.
Et qu'est-ce qui va se passer? Gisèle Vergniaud, le sort des otages auquel je faisais allusion, vous pensez que ça doit forcément entrer dans la renégociation? On ne peut pas faire comme s'il n'était pas là-bas.
Je ne le pense pas, parce que Laurent Nunez actuellement est là-bas pour ça, je suppose. Il est en Algérie, il a rencontré... Je pense que c'est complètement dissocié. Mais c'est ma lecture de la presse ou autre. Je peux me tromper, je ne suis pas dans le secret de Nunez ni de Macron. Bien peu m'en feu. Mais vous parliez, à juste titre, des conditions, on va dire, par rapport...
Inégalitaires
par rapport...
suivant le pays d'où
par rapport au code d'entrée et de séjour et du droit d'asile français. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je voudrais quand même... Moi, il y a deux chiffres qui m'ont alerté et j'ai envie de les partager avec vous sur ces fameux titres de séjour qui seraient donnés plus facilement aux Algériens qu'aux Marocains. Et j'ai trouvé des chiffres. En 2023, 39 073 titres de séjour pour des ressortissants marocains et 29 246 pour des Algériens. Donc même les conditions, on va dire...
D'attribution.
Les conditions d'attribution plus favorables aux Algériens, on en a donné davantage aux Marocains. Donc, tout cela minimise un peu cette nécessité de dénoncer et dire qu'en fait, avec les avenants qui y ont eu, les avenants successifs, on s'est quand même rapproché. Vous citiez les deux points qui sont inégalitaires, je suis d'accord. Mais on s'est rapproché du code d'entrée et de séjour des
codes de séjour ne tiennent compte que des gens en situation régulière. Donc là, on ne voit que le haut de l'iceberg, si vous voulez. Mais il y a ensuite toutes les entrées irrégulières. Et là, on est sur d'autres chiffres.
C'est autre chose.
La deuxième question que voient les Français, qui est une question inégalitaire, c'est les fameuses OQTF. Ça aussi, si vous voulez. Lorsqu'il y a une obligation de quitter le territoire et qu'on s'adresse à la Tunisie, au Maroc, ils reprennent leurs ressortissants, les Algériens refusent. Et l'autre question, c'est aussi pour les représentations diplomatiques dans le pays. Il y en a énormément et donc qui gèrent, mais ils refusent qu'on ait des implantations diplomatiques en Algérie. Donc c'est chaque fois deux poids deux mesures, c'est jamais égalitaire. Or les autres pays du Maghreb ne se comportent pas de la même façon. Et ça, c'est pas normal, si vous voulez. Moi, je trouve que l'aspiration de beaucoup de gens, et à travers des sondages, et notamment ces fameux 60%, c'est de dire, mais comment se fait-il que l'Algérie ait un statut dérogatoire? Donc pourquoi est-ce qu'on ne traite pas les Marocains, les Tunisiens ou même les gens du Sud-Sahara francophones de la même façon que les Algériens? C'est incompréhensible pour les Français. Et dire que, ah oui, mais si c'est le Rassemblement national qui l'évoque, alors il ne faut rien toucher. Bon, je trouve ça ridicule. Il y a un vrai problème. Ayons l'humilité de le traiter sans savoir si c'est M. Pierre, Paul ou Jacques qui l'a proposé. C'est ça que les Français ne comprennent pas.
C'est le problème de la réciprocité, mais oui, bon, c'est sûr que...
De plus en plus, il va falloir le traiter, ce problème, inévitablement. Alors, il faut trouver la bonne façon, ouais. Le contexte n'est pas favorable,
c'est qu'un accord, il faut être deux, et voilà, que les Algériens, évidemment, comme l'accord leur est extrêmement favorable, ben moi, je les comprends, ils ne veulent surtout pas le renégocier. Mettons-nous à leur place, évidemment.
Surtout en ce moment, malheureusement. Alors bon, quel va être le sort de cet accord franco-algérien de 1968 et quid du front anti-RN lors des élections? Réponse sans doute dans les mois à venir. Nous allons faire la pause habituelle dans cette émission. Restez bien à notre écoute. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour débattre autour d'un autre sujet qui n'est pas sans rapport avec celui que nous venons de traiter. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Je suis toujours en compagnie de Françoise Laborde, Gisèle Vergnuel et Bruno Cyr. Il va être encore question du Rassemblement national dans cette seconde partie d'émission, puisqu'un sondage récemment publié par l'Institut Elab, à la suite d'autres parus il y a quelques semaines, donne les candidats du RN, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, à un niveau de 35% et même parfois plus au premier tour de la présidentielle. Si celle-ci avait lieu maintenant, bien sûr, les autres candidats potentiels plafonnent au mieux à des scores de plus ou moins 15% et tous se tassent de sondage en sondage, hormis Jean-Luc Mélenchon, annoncé par Elab en hausse autour de 12%. Bon, il est quand même en dessous des 15% pour ceux qui arrivent à la deuxième place. Toujours est-il que jamais un tel écart, 20 points tout de même, n'avait été mesuré entre le RN et les autres partis. Est-ce que vous accordez de l'importance à cette photographie de l'opinion à l'instant T, parce qu'elle indiquerait un véritable mouvement de fond au sein de celle-ci? Ou est-ce que vous la nuancez parce que les élections ont jusqu'alors toujours montré que le RN et ses candidats réalisaient des scores nettement inférieurs à ceux que leur promettaient les sondages intermédiaires? Gisèle Vergnuel. Vous êtes un peu accablé quand même par les résultats de ces sondages.
Même si vous
le regardez que de loin.
Même les regarder. Non, là, c'est... Des intentions de vote par rapport à un parti, en général, c'est fiable. Là, je ne dis pas le contraire. Après, c'est les sondages sur les opinions, c'est autre chose. Mais là, vous votez RN, vous votez autre, c'est...
La question est claire.
La question est claire et c'est ce que je dénonçais tout à l'heure. Bon, mais ce n'est pas nouveau. Et puis, il y a cette marche, on va dire, quasi... européenne, certes, on a vu des exemples dans d'autres pays très proches où les électeurs et les électrices s'en remettent. Moi, je le dirais ainsi, s'en remettent à des partis qui n'ont jamais eu l'exercice du pouvoir. Ils sont déçus par tous les partis, ça je souscris totalement. Et nous sommes en ce moment dans ce creux où les personnes sont déçues par ce qui se passe à notre niveau en France, des gouvernements qui sont censurés, qui tombent, qui n'arrivent pas. Un président qui a fait n'importe quoi avec la dissolution de 2024.
En parlant de sondage, Emmanuel Macron est à 11% dans les sondages.
Voilà, cette dissolution qui a entraîné, on ne va pas le répéter ici parce que vous avez dû faire des émissions nombreuses là-dessus.
Oui, oui.
Et nous en sommes là, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas eu le respect aussi du vote de 2024, excusez-moi. Et donc, nous sommes face à ce péril. Ensuite, vous en parliez tout à l'heure. Et il y a une élection intermédiaire qui est l'élection qui est la plus, qui intéresse le plus les Français, finalement, après la présidentielle, ce sont les municipales. Et là, nous allons voir ce qui va se passer au niveau des municipales. Parce que les municipales, comme certains le disent de façon un peu triviale, le maire, il est à portée de claque, hein. Et là, nous allons bien voir si le RN continue à faire sa place dans les villes, les grandes villes, les moyennes villes, etc. Et là, ça sera un bel indicateur aussi. Et après, moi, je parle de mon point de vue, de ma chaise. Je pense qu'il va falloir aussi que les partis de gauche s'entendent pour donner une alternative. Parce que si nous allons vers ce qui semblerait une union de certaines droites,
plus reste après, à prouver encore. Hein.
Reste à prouver encore. Mais enfin, le péril est grand et je pense que la responsabilité est grande aussi par rapport aux forces de gauche.
Oui. Oui, alors, pour être un peu plus clair dans ce que j'ai dit, quand je dis 15%, bon, Édouard Philippe, dans ce sondage, hein, lui, il est à 15,5. On a Jean-Luc Mélenchon qui est à 12,5. Donc, lui, il progresse de 3 points. Édouard Philippe, il a vraiment complètement dévissé, pour reprendre un terme d'alpinisme. Et il y a Raphaël Glucksmann qui serait à 11%. Bon, la candidate de votre parti qui, elle, a annoncé hein, qu'elle se présenterait, Marine Tondelier, elle est à plus ou moins 5%. Bon, vous voyez que c'est quand même... Alors, il y a une question qui va se poser, c'est si on considère que le RN, quoi qu'il arrive, sera en finale en 2027, qui va arriver second ? Bruno Cire.
Eh bien, d'abord, on est loin des élections, donc ces sondages sur les présidentielles, on est quand même à un an et demi, un peu plus même des élections, donc ça va changer, et évidemment. Donc, il faut être prudent sur ces sondages. Mais ça indique quand même...
Bah, je parle de mouvement de fond. Hein,
oui, ça indique un mouvement de fond. Et moi, je vais vous redire ici ce que je dis depuis pas mal d'années à mes amis et avec les gens avec lesquels. Je n'ai jamais cru que la bonne solution, c'était de gouverner au centre. Jamais. Je ne suis absolument pas centriste. Je pense que c'est une erreur. Et là, on a la démonstration de ce que je dis depuis 20 ans, de ce que je pense depuis 20 ans. Quand on est dans une démocratie, le principe d'une démocratie, c'est l'alternance. Ce n'est pas un seul parti qui capte le pouvoir et qui le garde éternellement. La démocratie, c'est fait pour, et surtout avec une constitution comme celle qu'on a en France, mais même dans les autres grandes démocraties, en Angleterre, en Allemagne, etc., il faut une alternance. Et le problème des gens qui veulent se mettre au centre en disant « on va capter tout ce qui est bien à droite, tout ce qui est bien à gauche, et on va, et avec ces gens, avec ces braves gens, on va faire une chose », ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternance possible si on les écoute. Ça veut dire qu'ils ont capté, ce qu'a essayé de faire Macron, à droite un certain nombre de gens, à gauche un certain nombre de gens, et puis, effectivement, on se dit « bah oui, mais où est l'alternance ? Il n'y a plus ». Et donc, évidemment, on a repoussé vers les extrêmes une partie de l'électorat qui est mécontent de la politique qui se mène et qui ne sachant plus se tourner, vont soit voir Mélenchon, donc moi je ne suis pas étonné des résultats actuels. Mélenchon reste fort, bien que, à mon avis, il soit beaucoup plus dangereux que Marine Le Pen quand on l'écoute avec ses théories antisémites et ses théories sur la diversité à tout crin, l'inclusion à tout crin, sans se préoccuper de ce qu'est et doit être un peuple français autour d'une colonne vertébrale qui est un certain nombre de socles communs de culture et d'acceptation. Ben lui, non, c'est la diversité, chacun sa paroisse et chacun son mode de fonctionnement. Ça, c'est pas la tradition française. Donc, malheureusement, donc c'est pour ça que je trouve extrêmement dangereux l'extrême gauche. Et d'un autre côté, ben, ça a renforcé le Front National. Et comme cette politique diversitaire d'extrême-gauche ne plaît pas à beaucoup de Français, ben, et qu'au centre, ils ont une politique, on le voit bien sur le sujet qu'on vient d'aborder, on n'est pas foutu de remettre en accord sur la table des accords qui pour cent sont extrêmement défavorables à la France, hein, et bien donc les gens se tournent vers le Rassemblement National. Et ça, c'est la conséquence de cette politique centriste qu'a voulu mener Macron, mais qu'avait déjà commencé bien avant lui une partie du Parti Socialiste autour de François Hollande, et même avant autour de Giscard d'Estaing, qui avait déjà des idées centristes. Donc, et bien, ils ont fini par créer cette polarisation entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Et on en paye ça. Et donc, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait l'extrême droite qui arrive au pouvoir en France, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Et au fond, ça sera la conséquence de ce qu'ont fait les politiques depuis 30 ans dans ce pays.
Alors, ce qui est vrai pour réagir à ce que dit Bruno Cyr, c'est que depuis ces fameuses élections 2024 suite à la dissolution souhaitée par Emmanuel Macron, beaucoup de Français ont le sentiment que le dit bloc central ne veut pas lâcher le pouvoir alors qu'il a perdu les élections et qu'il est minoritaire. Et on se retrouve avec une succession de premiers ministres et de gouvernements qui reprennent un peu des gens qui sont centre-droit, centre-gauche. Grosso modo, ce qu'on a appelé le macronisme. Bon, Françoise Laborde.
Mais je partage, hein, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des députés qui représentent les Français, mais qui finalement ne sont pas assez nombreux d'un côté ou de l'autre pour faire passer des textes ou pour arrêter de jouer. Je mets des guillemets à jouer, hein. Les auditeurs ne voient pas mon geste, mais c'est pour ça que je précise. À ces censures permanentes, parce que là, il ne faut pas rêver, ça ne devrait pas durer non plus très longtemps. Mais enfin bon. Donc moi, je mets un petit bémol à ce que vous avez dit, c'est qu'on ne sait pas quand même si justement on va avoir des législatives.
Bien sûr.
Avant les présidentielles.
Et peut-être même avant les municipales. C'est pas exclu.
Oui, voilà,
parce que c'est vrai que sur les municipales, on a vu donc le RN prendre des villes moyennes et importantes. Bon, très bien. Là où on met un bémol, c'est quand même que sur des communes petites ou moyennes, c'est le maire ou là, hein, puisque là, c'est genré sans lettres, parce que c'est monsieur le maire ou madame le maire, qui peuvent être renouvelés parce qu'ils ont fait du bon boulot sur leur commune.
Quelle que soit leur étiquette.
Et voilà, l'étiquette ne sera pas importante. Donc ça va continuer à jouer. C'est pour ça que je dis on ne peut pas comparer complètement un test municipal avec un futur test présidentiel. Au milieu, donc, il risque d'y avoir des législatives. Et je partage donc ce que vous disiez sur le macronisme en particulier. Il y a eu un engouement sur le premier mandat d'Emmanuel Macron qui donc nous a fait le centre, on va prendre le meilleur, la substantifique moelle, etc. Et c'est vrai qu'un pays qui n'a pas une certaine dynamique et des controverses peut-être stagne et aujourd'hui, voilà. Et c'est pareil dans certaines municipalités. S'il n'y a plus d'opposition, c'est plan-plan.
Il faut
on se dit c'est génial. Ouais. Et puis quand il n'y a plus d'aiguillon, ben d'un seul coup, il y a une tempête, on ne l'a pas vu arriver. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, oui, moi je pense qu'en effet, vu d'ici et d'aujourd'hui, le RN... Vous êtes comme moi, on a tendance à dire FN, mais c'est
ouais,
RN.
RN, oui.
Risque d'arriver au premier tour. Il est arrivé, ça fait plusieurs fois qu'il arrive en premier. Et c'est pour ça que de tout à l'heure, je parlais du Front Républicain. Parce que ça, en revanche, j'ai un peu
marché
mal.
Une fois, ça marchera pas.
Ça a marché un paquet de fois. Ouais. Depuis Chirac et depuis Adam.
Mais là, on commence à nous ressortir. Il faut faire un bloc.
Voilà, c'est pour ça que je dis.
Ça ne fait plus un programme.
Ça ne fonctionne plus s'il n'y a pas un programme. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un problème. Après, ça peut être Mélenchon aussi. Hein. Bon.
Et ça sera le coup d'après.
Voilà. Non, mais voilà, si on repart sur une alternance, on se retrouve une alternance des extrêmes.
Bonjour le PD.
Alors, effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sondages et les résultats des dernières élections qui elles, ont vraiment lieu, là, on n'est plus dans la prospective, il paraît quand même très probable aujourd'hui qu'il y aura un candidat du RN comme en 2017 et en 2022 qui sera au second tour de la présidentielle en 2027. Donc toute la question aujourd'hui, il me semble, c'est qui va être deuxième et qui sera en face du candidat RN. Aujourd'hui, il ne paraît pas exclu, surtout qu'on sait qu'il est très bon en campagne, que ce puisse être Jean-Luc Mélenchon.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui se passerait là? J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous feriez, vous, Gisèle Vergnol, dans une telle configuration?
Dans toutes les hypothèses, j'en rajoute une autre, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les partis de gauche s'unissent.
Mais vous mettez les filles dans les partis.
Et je ne mets pas, merci, vous devancez ma parole.
Et oui,
alors
parce que
parlez
ça...
pour moi. Mais hors LFI, et de ce fait, serait en seconde position. Parce que je suis très étonnée du score de 12% que ferait Mélenchon. Parce que franchement, alors moi je suis...
Bah, il est souvent à ce niveau-là, dans les premières évaluations.
Et après, c'est lui
qui fait l'union des gauches.
Et le chemin va être long, mais moi j'ai...
Au premier plutôt.
Et le chemin va être long jusqu'au présidentiel. Oui. On est d'accord, même si c'est pas si loin que ça.
Bah, c'est un an et demi. Hein.
C'est un an et demi, mais je pense quand même qu'il va y avoir un sursaut de la gauche, la gauche de gouvernement, de la gauche responsable, de la gauche qui n'instrumentalise pas la pagaille, je vais être poli, la pagaille.
Ou la bordélisation, disent certains.
Voilà, mais moi je ne le dis pas. Et de ce fait...
Avec
un programme, parce que là il est en cours d'élaboration. Voilà. Et je pense que
Vous pensez qu'il pourrait y avoir un candidat
et nous pouvons être
d'union de la gauche non
voilà.
LFI. Ah,
vous
y croyez? Ça pourrait être Raphaël Glucksmann, par exemple?
Je ne sais pas. Là, je ne vois pas dans la boule de cristal, mais pourquoi pas.
Mais Mme Tondelier a l'air plus proche quand même de LFI que de M. Glucksmann, hein, quand on l'entend parler. Et puis jusqu'à maintenant, dans les positions qu'elle a prises, je la sens très proche de
Mélenchon. Je ne partage pas et je suis dans son parti. Voilà.
Bruno Cyr, vous pensez que ça peut arriver, un second tour candidat RN contre Mélenchon?
C'est pas exclu. C'est pas exclu, parce que si la paralysie actuelle continue, les gens en ont ras-le-bol qu'on ne tienne pas compte de ce qu'ils pensent. On le voit encore avec cette histoire dont on parlait tout à l'heure, de dénoncer cet accord et de remettre l'Algérie dans le droit commun des autres pays. Si on est incapable d'avancer sur tous les dossiers, qu'on dise « Ah, c'est pas le moment, il faut pas le faire. Ah, puis si c'est un tel qui le propose, il faut surtout pas le faire. » Mais ça, les Français supportent plus. Et donc, ils vont se réfugier vers les extrêmes. Donc, moi, ça me paraît pas exclu du tout. J'espère qu'il y aura une alliance des gauches raisonnable et une alliance raisonnable à droite aussi. Mais c'est quand même triste à voir.
Ça paraît compliqué des deux côtés, d'ailleurs. Peut-être moins à gauche, on verra, je ne sais pas.
Oui,
je pense que la preuve,
si on en revient à ce qui a été voté, c'est peut-être plus compliqué de le faire à droite qu'à gauche. Ou alors, il y a plus de porosité à droite qu'à gauche.
C'est toute la question.
C'est là où on voit la chute aussi, par exemple, d'Édouard Philippe.
Ah ben oui.
Parce qu'alors lui, là, il a pris cher, je crois qu'il a
perdu... Ah ben il a 15,5, à une époque, il était à 26.
Il a perdu 8 points, là, récemment.
Oui, c'est ça.
C'est peut-être aussi, mais c'est pareil, c'est les petites paroles, les petites musiques, etc., où il fait partie des gens qui disent « Macron démission ». Je pense qu'il n'avait pas besoin de dire ça.
Oui, les Français n'aiment pas les traîtres en général.
Voilà.
Alors, je ne dis pas que Édouard Philippe est un traître, mais ça peut être interprété comme
parce
ça.
Parce que, on n'aime pas Édouard Philippe. Bon, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Il y a des choses, comme tout le monde, on lit les bouquins des uns et des autres. Et c'est pareil, on prend...
On est capable de se faire une opinion.
Voilà. Mais là, je pense qu'il a joué gros. Ben, il a perdu 8 points. Comme d'autres. Donc, je pense que l'union des droites va quand même être très, très compliquée. Je croirais plus en l'union des gauches, même si, mais on va pas refaire l'histoire, je regrette qu'il y ait eu l'existence des accords avec LFI. Mais bon, ce qui a été fait, et il faut avoir suffisamment de personnalité, de programme, et donc de montrer qu'on tient la route.
Il faut avoir des convictions, il faut être capable aussi de les défendre et de bâtir un programme.
Et aux législatives, LFI va quand même va tenir un certain nombre de députés.
C'est sûr qu'il y avait des élections demain, là.
Voilà, donc c'est ça la force.
Le vrai test grandeur nature, peut-être plus encore que les municipales, ce serait vraiment les législatives.
Bien sûr.
C'est là qu'on verrait si le fameux barrage républicain.
C'est pour ça que certains se demandent s'il faut vraiment faire une censure.
On évoque ensemble le barrage républicain, mais moi je veux quand même rappeler, et les chiffres sont là pour le prouver, Le barrage républicain, il a été sans faille de la part de la gauche. Mais
mais ça c'est une autre question.
la droite n'a jamais fonctionné par rapport au RN. Ce qui montre la
porosité.
Parce
que c'est une tromperie. C'est une tromperie, le barrage républicain. Quand vous avez 20% des Français qui votent pour un parti, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas dans la République. Donc il faut arrêter ce discours dire que 20% des Français ne sont pas dans la République.
Ce n'est pas ce qu'a dit Gisèle.
Ce n'est pas ce que je disais. Je disais que quand il y avait un candidat RN et un candidat de droite, et que le candidat de gauche aurait pu gagner, il n'y a pas eu de front républicain par rapport à la droite. Ils se sont maintenus, il y a eu des triangulaires.
Moi, dans ma circonscription, il y avait un candidat de LFI contre un candidat Macron. Eh bien, le Parti socialiste a demandé à voter pour le candidat de LFI. Et notamment le sénateur, comment s'appelle-t-il ? Il a demandé à voter pour Mme Roubi, qui était candidate LFI, contre la candidate du Rassemblement. Alors, on ne peut pas dire que ça ait très bien joué à gauche.
Mais si, c'est ça.
Contre la candidate, non.
Non, pas contre la candidate générale, contre la candidate de Macron.
Contre la candidate qui était de Renaissance. Qui était une candidate de Macron.
Corinne Vigneault.
J'ai trouvé ça absolument scandaleux de préférer choisir LFI plutôt qu'un candidat de Macron.
C'était
normal. Je vous rappelle que Macron est issu de la gauche quand même.
Mais c'est notre accord.
Mais c'était l'accord NUPES.
À Macron de gauche, là c'est un autre débat, mais alors il faut prévoir 4 heures.
On n'a plus que quelques minutes. Non, mais je regardais quelque chose. Parce que quand on additionne les voix dans les sondages du RN en y ajoutant Reconquête et Debout la France, on arrive à quelque chose qui est entre 41-43% suivant les configurations.
Vous voulez nous casser le moral ?
Non. Mais alors, je ne sais pas si ça va vous casser le moral, mais ça montre bien que le camp de la droite, alors on va dire droite nationale, vous vous direz extrême droite, ne peut pas gagner sans l'apport des LR et des Horizons. C'est clair aujourd'hui. Sauf si ce sont les électeurs qui font l'union des droites dans les urnes. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de ce que vont demander leurs élus. Aujourd'hui, il y a ça
de
aussi.
De même que quand Reynal a demandé de voter contre...
Personne n'est propriétaire de ses électeurs.
Contre un candidat de Macron, les électeurs ne l'ont pas suivi.
Je ne sais pas, mais en tout cas...
C'est moi, je vous le dis, puisque finalement, elle a été élue.
De toute façon,
la candidate de Macron.
C'était le NFP et c'était notre, la logique de la gauche et des écologistes.
C'est une logique incompréhensible pour les Français, si vous voulez.
Ils ne sont pas si pragmatiques.
Moi qui étais dans cette circonscription, vraiment, je n'ai pas compris.
Les Français ne sont pas dans la dualité à ce point. Ils connaissent quand même quelques subtilités. Il ne faut pas penser qu'il faut que ce soit blanc ou noir. Ils connaissent le gris.
Vous êtes d'accord avec moi. Donc ça veut dire que les appareils qui vont dire il faut que le front de gauche marche, les gens ne suivront pas.
Il y a le problème de la participation et il y a le problème du vote blanc qui ne compte toujours pas.
Oui, alors bon, je parle de tous les votes non exprimés. Parce que ça aussi,
c'est
ça
la droite qui ne suit pas même le valeur. Front républicain. C'est pas la gauche. La gauche a toujours suivi.
Bon, on va rester là sur ce sujet. De toute façon, il reviendra forcément sur le tapis parce que des sondages, plus on va se rapprocher des échéances et plus il va y en avoir. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais entre le précédent sondage des Labs et celui qui est sorti récemment, il y a eu plus 4 pour Bardella. Il est passé de 31 à 35. Édouard Philippe, il a fait moins 5. Vous voyez, les culbutes. D'ailleurs, on ne sait pas trop. Ça serait intéressant de voir les vases communicants.
Exactement.
Et ça, c'est une indication sur ce que vont faire les électeurs sans forcément se soucier des consignes de vote que pourraient
tout
leur donner les partis auxquels ils se réfèrent. Alors, il nous reste un peu de temps. On va en profiter pour une fois pour vos coups de cœur ou votre coup de gueule ou coup de cœur du moment. Eh ben, c'est Bruno Cire qui va commencer. Je suis sûr qu'il a réfléchi. Et qu'il devrait en avoir peut-être même plusieurs, allez savoir.
Oui, moi j'ai un coup de cœur spécifique à mon engagement chrétien. Et on est sur une radio chrétienne. Moi j'ai été scandalisé par le fait qu'un certain nombre de responsables, politiques ou autres, disent « N'allez surtout pas voir le film Sacré-Cœur, parce que c'est cautionner l'extrême droite. » Comme si ce film... représenter l'extrême droite. Mais je trouve ça absolument scandaleux. Moi, ça m'a scandalisé. Le film Sacré-Cœur est un très bon film. Après, on n'oblige pas les gens à croire. Ça, c'est une démarche personnelle. Mais dire, si vous êtes croyant et que vous trouvez ce film bien, alors vous êtes d'extrême droite. Non, mais ça, c'est absolument hallucinant d'entendre des choses pareilles. Donc moi, voilà mon coup de colère.
Concernant ce film et l'initiative du maire de Marseille, M. Payan, qui avait dit que juridiquement, il pouvait pas, la municipalité ne pouvait pas le faire diffuser, le faire projeter dans une salle municipale. Finalement, ça a été invalidé. Et il y a eu ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que quand on veut absolument cacher quelque chose, ça fait une pub formidable. Effectivement, ce film, aujourd'hui, je crois maintenant, il est peut-être pas loin même de 500 000 entrées, ce qui est énorme pour un film qui n'a pas bénéficié d'une couverture médiatique énorme, sauf celle que lui a procurée le maire de Marseille, Françoise Laborde.
Donc, je ne l'ai pas vu. Si j'ai l'occasion, j'irai le voir pour me faire ma propre opinion, puisque c'est ainsi que je fonctionne.
Je vous conseille d'aller le voir, vous verrez qu'il
voilà.
y a
alors,
rien
moi,
d'extrême
j'ai un coup de gueule, c'est Shane.
Oui.
Parce que je suis désolée, mais...
Bon, rappelez ce que c'est pour
alors,
les gens qui n'ont pas suivi.
Il y a eu cette polémique, alors il y en a plein, bon ça, chacun choisit d'aller acheter des choses pas chères. Quelquefois, des gens disent, je ne choisis pas parce que je n'ai pas les moyens. Donc, je l'entends, chacun fait ce qu'il veut, là aussi. Il y a des problèmes de prix, bon après, il y a des problèmes qui fabriquent. Donc, bon, hein, le bas prix, ça peut parfois venir... de petites mains enfantines.
D'un pays communiste.
Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup... mais moi, donc là, pour l'instant, moi, je ne vais pas dans ces boutiques. Je ne commande pas sur Internet. Très bien. En revanche, la fillette, donc la poupée qui ressemble à une petite fille qui est magnifique. J'ai même cru, quand j'ai vu à la télé, j'ai cru que c'était une vraie petite fille. Qui est donc vendue avec anus et vagin. Et j'ai recopié, je suis allée voir, hein, poupée fantastique pour homme solitaire.
Oui,
donc, c'est pas caché. Hein. Donc, c'est la mise sur le marché et la validation de la pédocriminalité et pornographie, pédopornographie. Et comme moi, je m'occupe quand même d'associations qui défendent plutôt les enfants contre l'inceste, contre les violences familiales, etc., les bras m'en sont tombés.
Oui,
voilà. Et je vais jusqu'au bout. Puisque j'ai l'antenne, n'allez pas chez Shane.
Oui. Je plus soi.
Ni chez Temu.
Un coup de cœur, c'est le maire de New York, Zoran Mamdani.
Ah.
Je suis hyper contente que les New Yorkais puissent voter pour un maire de cet âge-là, avec ce qu'il représente, et dans la ville de Trump. Et là, moi, pour moi, ça a été un vrai coup de cœur.
Cela dit, c'est une ville qui vote démocrate depuis longtemps.
Tout à
donc
fait.
Y a pas vraiment de surprise.
Mais c'est la ville qui préfère.
Mais c'est vrai, c'est la première fois.
C'est la ville qui préfère et c'est donc
c'est la première fois.
Un gros caillou dans sa chaussure. Pardon.
Oui.
On verra l'usage ce qu'il donne parce qu'il a des
propos. Vous n'avez aucun espoir dans la vie, monsieur Cyr.
Non, mais je suis d'accord pour dire qu'il faut, voir à l'usage. On sait certaines choses qui ont filtré jusqu'alors. On va voir ce qui va se passer. Maintenant, est-ce que c'est un revers pour Trump? Je ne suis pas certain.
Non, ça va servir.
Ça pourrait le consolider même son électorat. On verra au mi-terme.
Allez, à la prochaine émission.
On verra. On ne parle pas
en tout cas, ça l'a beaucoup agacé. Il avait écrit.
Oui, bien sûr, il a traité de communiste.
Voilà.
C'est la fin de ce 207e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé et d'y avoir défendu vos convictions. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Merci enfin à nos auditeurs, toujours fidèles chaque semaine à l'écoute de la Mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.